Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
Chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Oui, bonjour. Pour ce nouveau numéro de Racontez-nous votre Montpellier, nous allons faire une promenade nocturne dans notre ville. François Valéjoas, vous êtes enseignant, chercheur et explorateur de la nuit, on va en parler. Vous êtes maître de conférences en aménagement et urbanisme à l'université Paul-Valéry Montpellier-Trat au sein de l'unité mixte de recherche, ça s'appelle comme ça, acteurs, ressources et territoires dans le développement. Vous y co-dirigez le master urbanisme et aménagement, urbanisme, projets urbains et modèles alternatifs. Avec Florian Guérin, sociologue urbain et chercheur, vous êtes le co-auteur d'une étude sur les nuits de Montpellier qui a donc attirer mon attention et qui suscite, je pense, la curiosité des auditeurs. Mais d'abord, merci d'être là. Racontez-nous votre Montpellier, où vous travaillez depuis 5 ans et où, sauf erreur, vous vivez depuis 3 ans. À vos yeux, qu'est-ce qui caractérise Montpellier? Qu'est-ce qui singularise cette ville?
Bonjour, merci de m'avoir invité pour échanger sur ces sujets passionnants. Effectivement, je suis encore néo-montpelliérain, même si je suis ancré à Montpellier depuis quelques années.
Vous avez l'œil neuf des nouveaux.
Exactement, voilà. Tout en étant passé par d'autres villes. Hein. J'ai vécu à Paris, beaucoup en Bretagne, et puis je suis passé par Marseille avant d'arriver à Montpellier. D'échouer à Montpellier peut-être, mais en tout cas de m'ancrer pour un petit moment. Qu'est-ce qui caractérise Montpellier? C'est d'abord, je crois, pour un urbaniste, la vitesse de développement de la ville.
Oui.
Qui m'a... Quand j'ai été recruté ici, avant d'avoir mis les pieds dans cette ville, c'est les premières choses que j'ai vues. C'est
une vitesse
développement de...
en partie induite par la croissance démographique.
Tout à fait, exactement. Et le contraste avec la ville que l'on connaît en tant que touriste quand on la traverse, c'est-à-dire le Cusson, en fait.
Le patrimoine.
Voilà, on connaît la vieille ville et on se dit que derrière cette vieille ville, il y a une ville nouvelle, importante, qui se développe. Qu'on ne voit pas ou peu en la traversant en train, en tram, en allant jusqu'à la plage, mais dont on ne s'arrête pas forcément. Et c'est ce qui m'intéressait, de regarder aussi ces marges, ces
voilà.
Espaces.
Donc, pas la vie des cartes postales, donc on peut avoir plaisir à se promener, mais voilà, les autres quartiers, le mouvement et les enjeux ou les difficultés ou les opportunités que ce développement a donné depuis une trentaine d'années maintenant.
Tout à fait. Et c'est une ville difficile à appréhender parce qu'effectivement, le centre a une unité forte, mais les autres quartiers sont très diversifiés, pas forcément très bien reliés ensemble, pas très bien reliés au centre, pas toujours bien reliés au centre. Et difficile à analyser, à comprendre. Je commence un petit peu à la saisir, mais ça demande un effort, effectivement des explorations fréquentes.
Alors, quand vous recevez des amis, bon, question complémentaire, ou des membres de votre famille qui ne connaissent pas ou peu Montpellier, qui sont de passage, quand on habite dans le sud, il y a des visites spontanées de gens qui habitent ailleurs, qu'est-ce que vous leur dites là, bon, de Montpellier ou de ce qu'il convient d'aller voir, sans au-delà des guides touristiques?
Alors, je pense qu'étant encore néo-montpelliérain,
oui.
j'ai une pratique encore un petit peu touristique,
oui,
de la ville.
C'est-à-dire
que je suis très orienté vers la mer. Alors, je suis breton, donc forcément la mer m'attire. Je pratique beaucoup les espaces entre Montpellier et la mer. Et j'emmène les gens à vélo, le long du Lez, jusqu'à Palavas. Et j'aime beaucoup voir Palavas hors saison. Cet espace un peu désuet, cette ville,
oui,
désuète et en même temps très riche, très intéressante.
C'est une ville, hein, qui continue. Il y a un port de pêche, comme chacun sait. Donc, ce n'est pas une ville qui a été créée que c'est un îlot comme plusieurs de ses voisines.
Hein. Et pourtant, quand on amène des amis qui viennent d'autres régions, Palavas, la Grande Motte, ça a une charge.
Oui, il y a un imaginaire
images.
Très fort. Oui.
Exactement. Et les emmener voir ça en réalité... hors saison, je trouve que ça change aussi beaucoup les représentations qu'on peut en avoir.
Très bien, ben voilà une incitation à la promenade pour les semaines qui viennent. Quand la canicule a disparu, il y a des belles lumières à l'automne dans ces coins-là, les étangs notamment.
Tout à fait.
Alors, dernière question un peu introductive avant qu'on parle de ce travail sur la nuit. Quels sont les lieux que vous avez pu découvrir, diurnes ou nocturnes, qui ont pour vous, je dis, une charge personnelle ou professionnelle, plutôt personnelle pour le coup, parce qu'on va parler du professionnel, particulières, quoi, des lieux emblématiques, comme on dirait, mais qui sont, là encore une fois, je dirais, vos lieux à vous, quoi, pas nécessairement les lieux de tout le monde.
Alors, bon, je vais revenir dessus, mais je pense que le littoral fait partie de Montpellier, finalement. Mmh. Je suis moins orienté vers les Garrigues, c'est moins mon univers.
Mais cap vers le sud.
Et voilà, mais ça reste à découvrir pour moi. Donc effectivement, la mer, la plage, c'est cette plaine littorale, les étangs, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis, j'ai appris à découvrir mon quartier. J'habite dans le quartier de la Méditerranée. Ouais. À proximité de la gare, ce qui était mon objectif initial en arrivant ici.
Et un quartier avec des caractéristiques, une personnalité, une vie de quartier assez intense. Hein.
Et en même temps, j'ai l'impression pas si connu que ça. Les gens le connaissent sans le fréquenter forcément.
Il n'y a pas l'effet Arceau ou l'effet Beaux-Arts que d'autres quartiers, bon, on en parlera, hein, où le phénomène de gentrification joue. Oui. Et peut-être qu'à garder quelque chose.
Oui, le quartier Méditerranée est aussi un quartier gentrifié, mais plus petit, moins connu, moins médiatisé, même si le street art, etc., je sais que c'est l'objet d'une autre émission.
En effet.
il y est très présent et lui donne une identité aussi importante. Mais voilà, j'ai appris à aimer ce quartier.
Très bien. Alors voilà une incitation aussi à la découverte et à la promenade pour ceux des auditeurs qui... ne connaissent pas. On va parler de votre travail. D'abord, première question, une recherche scientifique, pour le coup, sur la nuit en ville. Ce sujet semble neuf. Est-ce qu'il est ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y avait une espèce d'inconnu, alors que les autres problématiques, diurnes, pour le coup, sont longuement et depuis longtemps traitées ?
Alors pour moi, ça l'était en partie. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne suis pas un spécialiste de la nuit. Il y a des chercheurs spécialistes de la nuit qui seront présents... dans un événement qu'on organise là, dans le mois de septembre à Montpellier, qui sont des vrais spécialistes. Il y a eu des travaux réalisés sur la nuit, mais effectivement, le monde de la nuit ne parle pas toujours au monde du jour. Et le monde du jour ne prend pas forcément en compte les enjeux nocturnes.
Il y a bien deux mondes.
Voilà, et on produit la ville plutôt pour le jour que pour la nuit. La nuit est un peu... l'angle mort, finalement, passe sous les radars de la production de la ville, de l'architecture, de l'urbanisme. Sauf sur certains éléments, et on y reviendra, sur les aspects sécuritaires, sur les aspects mis en lumière. Ça change peut-être avec maintenant un élu à la ville de Montpellier qui est en charge de l'esthétique lumineuse, donc
tout
qui
à
prend
fait.
En compte la question de la
C'est
nuit.
C'est un mouvement qui a commencé ici et qui maintenant est devenu de pleine actualité, puisqu'il y a des décisions et des débats politiques ou sociaux ou sociétaux sur ce sujet.
Tout à fait.
Alors, un mot peut-être sur la manière dont vous avez travaillé pour que les auditeurs comprennent comment ce travail était effectué, notamment avec des étudiants en urbanisme. Dites-nous un peu quelles ont été les principales étapes du travail dont vous allez nous présenter à grands traits les principales conclusions.
Tout à fait. Alors, c'est dans le cadre de ce master en urbanisme, hein, des étudiants qui sont en Bac+4 et qui ont travaillé pendant 6 mois sur des enquêtes dans Montpellier, sur 4 quartiers différents de Montpellier. Hein. Donc, on avait les Beaux-Arts...
Citons-les, on en parlera peut-être. Oui, Beaux-Arts.
Beaux-Arts-Boutonnet, on avait Figuerolles-Gambetta.
Figuerolles-Gambetta.
Le quartier de Celle-Neuve et le quartier Port-Marianne.
Port-Marianne, c'est ça.
Voilà, exactement. Donc... Et donc, ces étudiants ont fait des explorations nocturnes, en soirée. Alors, on avait une difficulté, on était en 2020-2021, pendant les périodes de couvre-feu. Donc, on a jonglé entre les différentes périodes. Ce qui fait qu'on était aussi dans un contexte où la nuit prenait une configuration tout autre. On avait une réglementation particulière sur les nuits à cette période-là.
D'accord. Donc, 4 quartiers différents. La partie bâtie, la population...
Le choix... Soit... L'hypothèse qu'on avait faite, c'est que la nuit... On avait une géographie très différenciée de la nuit dans les villes et que les quartiers centraux ne vivaient pas de la même manière et n'appréhendaient pas de la même manière la nuit que les faubourgs et ni que les quartiers populaires. Donc on a voulu avoir des quartiers très différents. Et effectivement, cette hypothèse a été confirmée. On n'a pas travaillé sur l'écusson, puisqu'il y a eu quelques travaux sur l'écusson ici à Montpellier qui avaient déjà été menés. Mais travailler sur ces faubourgs, ces nouveaux quartiers et ces quartiers populaires avait été une richesse.
Oui, nouveaux quartiers Port-Marianne et faubourgs, donc les autres quartiers que vous venez de citer. Est-ce qu'au départ, sans qu'il soit pour l'instant, pour le coup, d'une idée préconçue, vous aviez quelques objectifs à ce travail ? Qu'est-ce que vous visiez, quoi ? Quelle est, l'ambition de recueil d'informations, de rassemblement de données pour aller vers une analyse, pour décrypter ces éléments? Est-ce que, d'une manière plus précise, vous aviez ces objectifs-là scientifiques?
Alors, en termes d'objectifs scientifiques, on avait cet intérêt à porter un regard sur la nuit pour essayer de mieux comprendre quelles étaient les dynamiques sociales et urbaines de la ville de Montpellier, notamment de comprendre si les dynamiques, comment s'organisaient les dynamiques de gentrification, donc de transformation progressive d'une population dans un quartier et d'une transformation aussi urbaine du bâti dans ces quartiers-là, qu'est-ce que ça produisait sur la vie nocturne. Et on a rapidement vu qu'on avait, par ces transformations de la population, des populations qui coexistent et qui, la nuit, les normes sociales dans ces quartiers étaient transformées, donc avec d'éventuels conflits, des formes de ressources, de solidarité qui se mettent en place, mais qui ne sont pas les mêmes que le jour. Et c'est ce qui nous
donc
a
ça,
aussi...
Bon, c'est un travail qui a été confirmé, donc.
Tout à fait.
C'est-à-dire que ce que vous appelez ces dynamiques sociales, donc des mutations urbanistiques, humaines, de l'habitat, ont des effets sur la vie quotidienne, la vie des gens. On les connaît peut-être mieux dans la vie diurne, dans le rapport au déplacement, etc. Mais dans la vie nocturne, bien sûr, ça se joue différemment. Et ces différences-là, vous les avez pointées. Et elle renvoie, me semble-t-il, à un certain nombre d'enjeux. Vous avez un peu évoqué tout à l'heure les questions de traitement de ces questions sur le plan de l'éclairage, les questions de sécurité ou de sécurisation, les questions d'activités festives, celles qui sont reconnues comme valides, j'allais dire, celles qui sont peu ou prou contestées, écartées. On pourrait revenir là-dessus, parce que ça me semble être un des éléments majeurs de ce que l'étude démontre, quoi, en tout cas, met en lumière, si j'ose dire.
Ouais. Alors, on a montré, notamment, qu'on avait effectivement, dans cette géographie différenciée, des manières très différentes d'appréhender la nuit. Et que dans certains quartiers, Petit Bar, Celle-Neuve, la nuit était appréhendée de manière très sécuritaire. On évite les usages la nuit. Donc, on a deux figures qu'on a mises en avant, la clôture et la voiture, qui sont... des éléments qui vont empêcher certains usages, qui vont tenter de réglementer les usages, alors qui finalement se reconfigurent autrement.
Alors, clôture, c'est des résidences
qui se ferment, fermées. Voilà, tout à fait.
Avec une grille à l'entrée, ouverte seulement aux locataires.
Ouais. Et la voiture,
ce phénomène, c'est amplifié, là, oui. Parce qu'on l'a connu, moi je l'ai connu, c'était très marquant, à Toulouse. Les nouvelles résidences en périphérie de Toulouse, toujours fermées... on voit un peu la catégorie de la population, disons classe moyenne, ça correspond. Et là, ce phénomène, vous l'avez repéré dans certains quartiers populaires de Montpellier.
Alors, on le repère à la fois dans les quartiers plutôt de classe moyenne et puis dans les quartiers qui ont fait l'objet d'une opération de rénovation urbaine. Donc, par exemple, le Petit Bar, où on a effectivement des fermetures pour résidentialiser, créer des résidences. Voilà. Et le deuxième élément, c'était effectivement la voiture, puisqu'on s'aperçoit que finalement, elle devient omniprésente dans des espaces où on avait des usages, donc dans des lieux de regroupement de jeunes, etc. On cherche à éviter ces usages-là, et en fait, créer du stationnement à cet endroit-là est une manière de supprimer l'usage ou de le décaler.
Ça. L'espace public qui était occupé spontanément n'est plus accessible,
exactement.
Ça produit ça.
Tout à fait.
Et est-ce que pour le coup, on peut le dire de manière caricaturale que les formes de vie sociale dans ces quartiers-là sont écartées ? Voire éradiqué, ou en tout cas rendu impossible, même s'il n'y a pas un règlement municipal qui le dit noir sur blanc, comme je viens de le faire. Est-ce qu'il y a eu ce phénomène un peu insidieux ou rampant de relégation, les vieilles questions de relégation dans la manière dont les villes se sont développées, est-ce que c'est ce genre de phénomène, sous réserve, je dirais, d'une étude, une analyse plus fine que mon propos un peu peut-être hâtif?
Alors je dirais peut-être qu'elles sont contraintes, quoi qu'il arrive. Ça va contraindre ces pratiques populaires, alors parfois en les reléguant, mais souvent finalement elles se reconfigurent ailleurs, autour, dans les bordures du quartier ou dans d'autres espaces. Et donc ça va créer de nouveaux conflits, de nouvelles tensions à d'autres endroits avec d'autres habitants. Finalement, les pratiques, elles prennent toujours place quelque part. Donc on a beau les évacuer d'un endroit, elles se reconfigurent ailleurs, mais d'une autre manière, avec d'autres acteurs et sur d'autres sujets.
Alors, ce qu'indique l'étude aussi, moi, on vient de l'évoquer, je pense qu'on y revient, la question de l'insécurité ou de la sécurité, avec le pendant que vous soulignez, en indiquant que la nuit, c'est aussi une ressource, c'est un moment dans le temps de la journée, qui est un moment qui n'est pas nécessairement inactif pour un certain nombre de populations, notamment les plus défavorisées. Donc,
tout à fait.
Nous dire de quoi il s'agit, là, ce phénomène-là, qui n'est peut-être pas connu, pour ceux qui dorment tranquillement dans leur lit, dans les quartiers tranquilles que la ville compte.
Et là, pour le coup, ça a été une révélation, notamment dans le quartier Boutonnet-Beaux-Arts, par exemple, que nos étudiants ont analysé comme un quartier ressource pour des populations marginalisées. On s'aperçoit qu'on a un réseau très dense d'associations, de lieux d'accueil, de nuit et de jour. Et on a des populations qu'on voit très peu de jour, qui sont très présentes la nuit ou en soirée, qui viennent manger, qui viennent dormir, qui viennent pour des soins, pour venir avoir des moments de solidarité, qu'on ne voit pas beaucoup de jour et qui apparaissent très clairement la nuit. Alors qu'ils peuvent créer aussi quelques conflits.
Oui, parce qu'ils viennent, ils peuvent vivre ailleurs que dans ce quartier-là.
Oui, ou se cacher, soit vivre ailleurs, soit se cacher, bon, chercher à se mettre, se protéger.
Ils y trouvent donc des ressources, je dirais, en service, ou des ressources humaines, ou des rencontres qui expliquent qu'ils y viennent, quoi.
Tout à fait. Ça devient de véritables lieux ressources dans la ville. On a ce cas-là à Figueroa-Gambetta et ce cas-là qu'on a observé à Boutonnet-Beaux-Arts, avec ces lieux ressources qui deviennent importants dans leur géographie.
Une vie nocturne qui, me semble-t-il, échappe pour beaucoup au radar, enfin, en tout cas, à une connaissance officielle, ou peut-être que la police connaît ces phénomènes, mais il me semble inaperçu du kidam montpellierain.
Tout à fait. Et c'est aussi pour ça qu'on cherche à former nos étudiants en les prenant un peu par surprise. C'est vrai qu'ils ont été un peu désarçonnés au départ. Quand on va dans une formation en urbanisme, on s'attend à travailler sur du projet urbain, etc.
Celle qui fera les belles pages des revues professionnelles quelques années plus tard.
Tout à fait. Mais là, on va les surprendre en allant regarder un peu par les marges ce qui se passe et en les habituant à regarder autrement la ville et en allant voir ce qu'on ne voit pas, ce qui est caché.
Et eux, ils ont procédé par observation, par entretien. Quelles ont été les techniques de recueil de ces réalités inconnues ou méconnues qu'ils ont utilisées?
Alors, beaucoup d'observations à différents moments de la nuit, en journée aussi, parce que la journée aussi révèle des traces de la nuit. Des entretiens avec des habitants, des entretiens avec des associations et des entretiens avec des acteurs de l'urbanisme, avec la mission Grand Cœur, avec les urbanistes de la ville de Montpellier, avec un ensemble d'acteurs qui travaillent dans ces quartiers-là pour essayer de comprendre comment eux appréhendaient la nuit dans leur travail.
Donc la mission Grand Cœur, c'est un appendice, je dirais, ou en tout cas une forme d'organisation particulière que la ville de Montpellier a mise en place pour traiter l'ensemble des problématiques du cœur de ville.
Tout à fait.
Que d'ailleurs les élus d'aujourd'hui appellent maintenant cœur de métropole, avec les problématiques de commerce, d'aménagement, de circulation, etc.
Fait, on s'aperçoit que les enjeux de la nuit sont à la fois... ne sont pas pris en charge et en même temps sont pris en charge par les dynamiques d'éclairage, par les transformations des sols, des bâtis, des façades et jouent sur les atmosphères de la nuit et sur les pratiques de la nuit.
Donc ça veut dire que, pour en venir à ce sujet-là qui est un peu un des fils conducteurs de cette étude, les différentes politiques publiques conduites principalement par la ville et peut-être aussi pour la métropole sur un certain nombre de sujets, les choix d'aménagement, les choix d'organisation et pour le coup là maintenant de déploiement des transports en commun, les choix de programmation culturelle dans des lieux qui appartiennent aux collectivités locales ou qui sont financés pour les collectivités locales, tous ces leviers me semble-t-il de manière légitime les élus utilisent, ont une incidence sur ce qu'est la vie nocturne de celles qui y vivent ou qui y viennent. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça, quoi?
Exactement. Oui, ça a des effets aussi sur les personnes qui peuvent y habiter, sur les personnes qui peuvent y venir. Et effectivement, ça reconfigure toutes les pratiques diurnes et nocturnes. Et c'est vrai qu'on le regarde peu sous l'angle de ces pratiques nocturnes, mais elles révèlent d'autres choses. On voit d'autres dynamiques, et qui viennent bien compléter ce qu'on observe de jour.
Alors, pour ma part, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il peut y avoir une approche très technique, très urbanistique, un plan, on décide d'élargir une rue ou de créer un nouvel espace public, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui est intéressant, c'est les humains, je vais dire, que font les gens, quels qu'ils soient, dans ces quartiers-là, et comment ça produit, je dirais, une vie sociale, des problématiques et peut-être des besoins collectifs qui ne sont pas, ce jour, tout à fait bien évalués, mesurés et donc pris en compte dans des décisions publiques à venir.
Tout à fait. Moi, je pense, là, je prends ma casquette d'enseignant, mais je pense qu'on a une responsabilité à former nos étudiants à regarder ça, à aiguiser leur œil, ouvrir leurs oreilles à toutes ces dynamiques.
Ils ont joué le jeu, si c'est
ce ils ont joué le jeu. Ils ont ça, été, je vous ai dit, désarçonnés, hein, vraiment
au
désarçonnés.
Au début, ouais, parce que ça a rompé avec les codes habituels. Ouais.
Ah, on leur apprend que faire de l'urbanisme, ça va être faire des maquettes. Or, l'urbanisme, en réalité, ça n'est pas ça. C'est surtout regarder la ville, comprendre ce qui s'y passe et discuter. Alors, l'autre enjeu, c'est de pouvoir transmettre ensuite aux acteurs, échanger avec les élus, échanger avec les services municipaux, les services métropolitains, pour qu'ils prennent en compte tous les enjeux qu'on a pu mettre en avant.
Alors, cette appropriation hein, du travail qui a été fait, et notamment, vous l'avez évoqué, là, le colloque qui a lieu quelques jours avant cette émission, un colloque de haut niveau, bien sûr, universitaire, qui s'appelle « Inégalité nocturne, pratique sociale », on l'a vu, « Usage de l'espace, acteurs et évolution des espaces bien durant la nuit », on est dans le sujet. Ça va être l'objet d'un travail pendant 2 jours à l'Université Paul-Valéry. Vous pouvez nous en dire un mot de ce qui doit se faire, ou c'est plus exactement qui se sera fait. Alors, en fait, quand cette émission sera diffusée.
C'est la restitution d'une recherche qui a eu lieu à Montpellier, Reims, Lyon, Grenoble et ailleurs en Europe avec des partenaires qui vont donc restituer leur travail. On invite de grands chercheurs très connus, Thierry Pacot, Luc Wazinski, qui ont travaillé sur ces questions-là. Mais je souligne aussi qu'il y a d'autres initiatives à Montpellier qui auront lieu après la diffusion de cette émission. On organise aussi un autre colloque sur les approches sensibles pendant les confinements, pendant la période de la crise sanitaire.
Qui approches rejoignent sensibles en partie, de quoi ? De l'urbain.
De l'urbain. Voilà. On travaille sur comment est-ce qu'on peut regarder de manière, en mobilisant tous nos sens, la ville pendant une période de confinement où les rythmes étaient complètement désynchronisés.
Les rythmes et même la fréquentation des espaces publics et de la voie publique, puisqu'on était plus ou moins reclus dans nos domiciles. Oui.
Tout à fait.
C'est une espèce de paradoxe quand même
exactement.
Dans cette question.
Alors moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est aussi de regarder les inégalités entre personnes qui avaient accès à un extérieur, à un jardin, à un parc à côté de chez elles ou pas. Et on voit des choses passionnantes. Donc ça a lieu les 3, 4, 5 octobre à la Paillade.
Voilà. D'accord, à la Paillade. Donc ces sujets-là ont été évoqués à l'époque, hein, dans la presse, dans les conversations entre amis, entre voisins. Mais là, il y a une approche, je dirais, pour le coup, scientifique, pour examiner et rationaliser ces phénomènes.
Voilà, il nous faut le temps. Vous voyez qu'on a besoin de temps pour digérer, pour regarder, pour observer, pour coucher sur le papier. Mais effectivement, on a besoin de ces temps d'échange ensuite pour confronter avec d'autres chercheurs. Et on invite dans ces deux temps-là des élus, des acteurs avec qui on va pouvoir partager nos conclusions. Et notre objectif étant aussi d'orienter un peu différemment les politiques urbaines.
Bien sûr. Bon, d'ailleurs, cette articulation, ce travail de recherche et les élus, est-ce que vous êtes en mesure de me dire comment ça se passe à Montpellier ? Montpellier, il y a une histoire très ancienne. Hein. L'adjoint à l'urbanisme de Georges Frère, Raymond Dugrand, a été, je crois qu'il faut le dire, celui qui a pensé le développement de la ville, qui a une influence déterminante, un peu oubliée. Il est mort il y a quelques années. Donc là, le pont, je dirais, entre l'université, la recherche et les élus, la responsabilité était... Il l'occupait, pas seul, mais il l'occupait. Est-ce que ces ponts-là, sous cette forme ou d'autre, on peut dire que dans la configuration politique actuelle, avec l'équipe qui a été élue un peu plus de 2 ans, ils existent ces ponts où les passerelles méritaient d'être renforcées et transformées en ponts pour que, sur ce sujet-là, comme d'ailleurs sur d'autres, l'acquis des chercheurs puisse être, si ce n'est pris en compte complètement ou mécaniquement, mais connu, appréhendé par les élus politiques.
Je pense que les choses avancent dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on établit dans les différents programmes de recherche sur lesquels on est de bonnes relations avec les élus, avec les acteurs, avec les services. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête. On n'a pas un rôle de conseiller.
Oui.
Nous sommes là pour potentiellement mettre le doigt là où ça fait mal, pour ouvrir les yeux sur d'autres réalités, pour regarder un petit peu à côté, pour poser les questions différemment. Et je pense qu'on a une oreille attentive, en tout cas des élus avec qui on travaille.
C'est-à-dire cette capacité d'élaborer un diagnostic solide, aussi solide que possible, sans parti pris, sans que ce soit la résultante de l'engagement politique que tel ou tel chef peuvent avoir par ailleurs, de mise à disposition, je le formule comme ça, en termes d'intérêt général de ce travail pour que les décideurs, comme on dit, puissent s'en saisir. C'est ça le phénomène que vous décrivez.
Quoi. Exactement. L'objet, c'est de mettre en débat ces résultats, hein, de les discuter. On a ensuite des arènes de discussion qui sont intéressantes à développer et on espère que ça va se poursuivre.
Et un des points que vous évoquez aussi, sur lesquels on peut revenir, c'est, les gens qui sont actifs pendant la nuit, quoi, et souvent indésirables. Les travailleurs et travailleurs du sexe, les trafiquants de drogue, les artistes de rue, etc. ils sont là, ils sont comment dire, à la fois visibles, puisque bon, ils sont souvent dans les espaces publics pour faire leurs activités, quelles qu'elles soient, et en même temps un peu invisibles, quoi, sans être repérés comme étant de ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle les acteurs, c'est-à-dire ceux qui interviennent, agissent dans l'espace urbain. Là aussi, il y a une espèce de voile sur ces phénomènes-là.
Ouais, je pense que on a du travail à faire pour considérer les habitants, les habitantes, les usagers, les usagères dans leur diversité, qu'ils soient légitimes ou pas à être là, qu'ils soient comme des acteurs. Finalement, ce sont aussi des acteurs de la ville par leurs pratiques, par leurs regards, par leur vote, par tout ce qu'ils peuvent penser de la ville. Il faut les prendre en compte sérieusement, les écouter, les regarder et essayer de faire avec en ménageant toutes ces pratiques qui peuvent être intéressantes. Alors effectivement, il y a des soucis, mais en travaillant collectivement, on arrive à répondre à beaucoup d'enjeux et en tout cas à mettre à l'honneur, mettre en visibilité certaines pratiques, certaines marginalités, certaines vulnérabilités sans lesquelles on ferait un urbanisme qui écraserait.
Voilà, désincarné et comment dire, autoritaire ou en tout cas en méconnaissant la réalité humaine ou la patte humaine, je dirais.
Tout à fait.
Qui est à prendre en compte.
Et notre rôle est d'aller les écouter, les comprendre, analyser les situations sans juger, mais pour pouvoir expliciter ce qui se passe sur ces territoires.
D'accord. Donc ça laisse du champ, je dirais, à des travaux futurs et du champ, bien sûr, à des décisions, des politiques publiques qui peuvent advenir ultérieurement. Donc vous l'avez dit, il y a un ensemble de tensions, de conflictualités entre bon, des gens qui viennent la nuit pour faire la fête et ceux qui habitent le quartier qui veulent dormir paisiblement. Bon, c'est classique. Et comme si, je le résume comme ça un peu abruptement, il y aurait un monde de la journée qui est le monde, je dirais, plus officiel, plus le monde de l'activité économique, encore qu'il y ait des activités économiques nocturnes, le monde positif, le monde du monde tel qu'il va bien, je dirais, même si, bon, c'est là aussi, c'est un peu réducteur, et un monde de la nuit qui serait un peu, comment dire, dont même les potentialités positives, quelles qu'elles soient, sont ignorées, comme si c'était une espèce d'underground, enfin, d'aspect souterrain qui n'attirerait pas vraiment l'attention de ceux qui ont à se pencher sur la vie collective.
Tout à fait. Et c'est un vrai paradoxe à Montpellier, pour le coup, puisque à la fois, on a une mise en avant de la fête, de la nuit. On a eu un fameux slogan qui était « Montpellier, la ville où le soleil ne se couche jamais ».
Oui, il y a une dizaine d'années.
Hein, voilà, mais... exactement. Et en même temps, on a finalement... on ne travaille pas spécifiquement sur ce moment de la nuit. On le met un peu de côté. On a comme si c'était deux moments qui ne se parlaient pas et sur lesquels les politiques urbaines seraient des politiques diurnes. On a certaines villes qui ont mis en place un maire de la nuit pour justement appréhender la nuit comme un moment particulier sur lequel il faut travailler, sur lequel il faut mener des politiques spécifiques.
Vous pouvez nous dire lesquelles vous avez en tête, ces villes-là qui ont un peu été précurseurs?
Alors, il faudrait aller chercher du côté des spécialistes de la nuit. J'avoue que je n'ai pas...
On leur posera la question. Voilà,
on leur posera la question.
Ce n'est pas nécessairement en France, d'ailleurs. Ça peut être
non, il y en a un petit peu partout. Parce je sais qu'à Lisbonne, il y a beaucoup de travaux là-dessus.
Il y a
à Paris,
villes qui ont une vie nocturne. Barcelone, pour prendre un exemple proche et évident.
Je sais qu'à Lisbonne et Paris, par exemple, dans les cas que je connais le mieux, on a des politiques urbaines spécifiques qui ont été développées autour de la nuit avec une vraie réflexion sur la nuit. À Paris, on a un observatoire de la nuit qui a justement pour objectif de regarder ce qui se passe, comment est-ce que les politiques de jour agissent sur la nuit, etc. Peut-être que c'est ce qu'on pourrait imaginer pour Montpellier. Hein. En tout cas, c'est un axe sur lequel Montpellier cherche à avoir un discours.
Oui.
Et finalement, dans les politiques, on ne le retrouve pas tant que ça, ou alors en creux. Et voilà,
alors, ce sera la dernière question. Est-ce que, pour le coup, ce travail-là, il relève d'une espèce de plaidoyer pour la nuit, ou en tout cas de la production d'une vision plus fine, plus différenciée, qui échappe aux clichés, quoi, aux idées reçues?
Alors, effectivement, je pense que, en tout cas, pour moi, c'est un plaidoyer pour aller regarder les marges, pour aller regarder ce qu'on ne regarde pas d'habitude.
Les marges urbaines, spatiales et les marges sociales.
Et temporelles.
Et temporelles.
Puisque là, on est sur la nuit, on va rajouter le temporel. Effectivement, regarder ce qui n'est pas appréhendé par les politiques dominantes, par les discours dominants, pour réinterroger les manières dont on fait la ville. Moi, c'est comme ça que je conçois ça, hein, c'est de travailler sur les logiques qui sous-tendent la production de la ville, la gestion de la ville, etc. Et la nuit est un super indicateur pour ça. Manière de regarder.
Voilà. Donc, réinterrogeant la manière de faire la ville, et peut-être réinterrogeant la manière d'où nous vivons, la ville. Je vous remercie, François Valéjas.
Merci beaucoup.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.